Radio Capi. Oh,
Capi. Le journal Jean-Désiré Cagnement.
Jour J-4 du lancement des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, le comité national de ces grands événements sportifs et culturels rassure que tout est prêt pour le déroulement des Jeux. Des réactions des journalistes et autres écrivains dans ce journal. Au Kasaï central, la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation démarre officiellement ses activités demain mardi. La cérémonie de lancement sera précédée ce lundi d'un atelier d'appropriation et de validation de textes de base de cette commission. L'invité de ce journal est le professeur Justin Kialé-Koy de l'Université de Kisangani dans la province de la Tchopo. Il parle de la conservation des ressources naturelles à l'épreuve des flux migratoires dans la province orientale démembrée. Voilà pour le sommaire. Et pour commencer, parlons des Jeux de la Francophonie. Nous sommes à jour J-4 du lancement de ces grands événements sportifs et culturels. Sur place à Kinshasa, les athlètes déjà présents s'entraînent sur les différents sites. Le Comité national des Jeux de la Francophonie rassure que tout est prêt pour le déroulement des Jeux, voire la cérémonie officielle d'ouverture. Nous avons intérêt à ce que ces Jeux se passent de la bonne manière parce que nous avons intérêt à consolider l'image d'un peuple vainqueur, d'un peuple qui fait face aux défi. Réaction du journaliste congolais Willy Kalengai, intervenant dans l'émission « Regard sur l'actualité de la semaine en RDC » de Radio Capi, diffusée samedi dernier et présentée par Guy Maté. On écoute Willy Kalengai, journaliste congolais et directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles paraissant à Kinshasa, dans cet extrait sélectionné par Élisée Tikota.
Je crois que tous les Congolais devraient se féliciter et saluer les autorités pour avoir obtenu, maintenu et finalement réalisé cette grande cérémonie. Parce qu'en réalité, c'est la première fois que notre pays demande de la manière la plus formelle le Congo bashing qui a existé, qui existe encore dans notre pays, qui a quand même les dimensions d'un sous-continent. Nous avons intérêt à ce que ces Jeux puissent se passer de la bonne manière et ça se passera de la bonne manière. Nous avons intérêt à consolider l'image d'un peuple vainqueur, d'un peuple qui fait face aux défis, parce que les défis étaient très grands, un défi organisationnel, un défi très grand, parce que d'autres pays ont participé à ce Congo bashing en créant sur le plan mondial un mouvement de sabotage, un mouvement de rejet de ces Jeux. Mais il y a quand même dans ce monde des gens sérieux qui ont compris que s'ils ne font pas ces Jeux de la francophonie, eh bien, nous aurons, nous en tant que Congolais, le droit de nous interroger quant à notre participation à cette même francophonie.
Je crois que ces Jeux viennent remettre la lumière sur la RDC de façon positive. Telle est l'appréciation de Louis Magloire Kéoumayou. Ce journaliste et écrivain camerounais réagissait ainsi et aussi dans l'émission « Regard sur l'actualité de la semaine en RDC » de Radio Capi diffusée samedi dernier et présentée, comme je le disais, par Guy Maté. Louis Magloire Kéoumayou espère que ces Jeux aideront à mettre autour de la RDC un tissu de solidarité dont elle n'a pas suffisamment bénéficié pendant les 30 dernières années. On l'écoute depuis Lomé, la capitale du Togo, Louis Magloire Kéoumayou, journaliste, écrivain camerounais, président du club de l'information africaine, dans cet extrait sélectionné également par Élisée Tikota.
L'exemple des Jeux de la francophonie est très important parce que souvent on a tendance à oublier que la RDC est le plus grand pays de la francophonie sur le continent africain et même à l'échelle internationale. Et que ce grand pays est en train de subir quelque chose de très grave qui sort souvent des radars de l'actualité internationale ou qui est traité avec beaucoup de banalisation sur la scène internationale. Donc je crois que ces Jeux viennent remettre la lumière sur le pays de façon positive et faire que ceux qui viendront dans le pays, même s'ils seront très loin des foyers de tension, se rendront compte que le pays vit, mais qu'il aurait pu vivre mieux si on lui avait apporté tous les moyens de se sortir de cette catastrophe qu'il est en train de vivre depuis plus de 30 ans.
Radio Capi vous propose également le portrait de José Diakanoua, judoka dans la catégorie des moins de 81 kilos. Il est parmi ceux qui représentent la RDC au 9e Jeu de la Francophonie. Portrait réalisé par Vanessa Kongolo.
Né à Kinshasa le 11 novembre 2005, José Diakanoa alias Griezmann a commencé le judo à l'âge de 7 ans au sein du judo club Saint-Joseph, champion d'Afrique au Burundi, champion de Kinshasa et plusieurs fois médaillé d'or dans des compétitions interrégionales. Il est l'un de sept athlètes hommes qui représentent la RDC au 9e jeu de la francophonie. Pour sa première participation au jeu de la francophonie, son seul objectif est de rendre son pays fier.
Un pays doit être fier de moi. Présenter la nation, c'est quelque chose de ouf, je pourrais dire ça. L'objectif est que nous devons rafler des médailles d'or pour l'honneur de notre pays.
Son coach formateur, Maître Lebo Lotika, croit en sa capacité d'offrir une médaille au pays.
C'est un judoka qui a connu beaucoup de succès et il est tellement carré dans son travail. Moi, je lui dis tout le temps qu'un jour, il va ramener la plus belle médaille en République démocratique du Congo.
La RDC sera représentée en judo au 9e jeu de la francophonie par 14 athlètes, dont 7 chez les hommes et 7 chez les dames. Chez les hommes, dans la catégorie allant de moins de 60 kg à plus de 100 kg et chez les dames de moins de 68 kg à plus de 78 kg.
Au Kasaï central, la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, CPVJR, démarre officiellement ses activités demain mardi. Organisée avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la cérémonie de lancement sera précédée ce lundi d'un atelier d'appropriation et de validation de textes de base de cette commission. Il s'agit du règlement intérieur et manuel des procédures. François Kadima nous en parle.
Plusieurs personnalités, acteurs et différents partenaires des Nations Unies venant de Genève, notamment du BCNUDH, sont attendus à Kananga au lancement officiel des activités de la CPVJR par le ministre national des droits humains. La CPVJR est une commission provinciale créée sur base d'inédit à la suite des violences ayant opposé les FARDC et la milice Kamuina Nsapu dans la région du Kasaï entre 2016 et 2017. Ces événements ont occasionné des morts, des destructions de biens, édifices et autres dégâts énormes. La commission a pour mission d'établir la vérité, la justice et promouvoir la réconciliation pour la paix et la cohésion sociale et pacifique. La CPVJR est la matérialisation de l'une des recommandations de la population du Kasaï central formulée en 2020 lors de consultations populaires qui avaient été organisées à la suite de ces événements de Kamuina Nsapu. Composée de 12 membres appelés commissaires venus des différentes composantes, la CPVJR a un mandat de 3 ans. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
En Ituri, le soldat des FARDC qui a abattu 13 personnes par son arme samedi à Tchomia, à environ 60 km de Bounia et Tozaré, depuis la nuit à Kasseni dans les territoires du Rumu. D'après des sources concordantes, le meurtrier qui était recherché a été appréhendé par des éléments des forces de l'ordre avec la collaboration des jeunes. C'était pendant qu'il tentait de quitter notamment la zone sur une moto. Une arrestation saluée par la société civile ainsi que la notabilité qui souhaite que ces militaires soient jugés dans une audience publique et que les familles des victimes soient dédommagées. Les points avec Jean-Claude Lokidile.
Il est presque 19h lorsqu'un Ndombe Upeti Babi est aperçu pour la première fois depuis son meurtre dans un restaurant à Tchomia. Des jeunes alertent aussitôt la police qui arrive malheureusement quelques minutes plus tard. Ce militaire des FARDC vient de quitter le lieu. Des jeunes se mobilisent pour tenter de le retrouver. Cette fois, c'est dans une station-service qui se présente avec un conducteur de moto-taxi qui doit l'acheminer à Kasseni, un autre centre de négoce à 7 km plus loin. Un groupe de jeunes tente de le maîtriser en vain. Il s'échappe, mais son arme garnie de munitions lui est arrachée. Quelques heures plus tard, avec le concours d'une dame, il est repéré dans une maison d'habitation banalisée. Et grâce à l'intervention cette fois des militaires des FADC et de la police, il est finalement arrêté puis acheminé à Kasseni où une audience foraine est prévue ce lundi, indique l'avocat général près la cour militaire de l'Ituri, Kumbungoma, qui séjourne sur place. Et pour rappel, le caporal a lâchement abattu 13 personnes. C'était après avoir accusé sa belle famille, selon le service de sécurité, d'avoir a ensorcelé son enfant décédé dans une formation médicale le jeudi dernier à Tchomia, Bounia. Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Et toujours en Ituri, sous un autre registre, la tension reste vive. Depuis ce matin, la prison centrale de Bounia, chef-lieu de la province. Un dispositif sécuritaire fort a été mis en place depuis 4 heures du matin pour sécuriser cette maison carcérale. Selon des témoins, c'est suite aux rumeurs d'attaques des groupes armés dont leurs membres ont été arrêtés lors des opérations militaires dans la région. Une perquisition se déroule dans la prison centrale de Bounia et tout accès est interdit aux familles des détenus. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis la semaine dernière que des milices zaïres profèrent des menaces d'attaque de la prison centrale de Bounia dans le but de libérer un de leurs leaders capturé par l'armée, affirment certains habitants autour de la prison. Ce matin, toutes les entrées, notamment la route Kapa prison, ainsi que les rues des différentes avenues derrière cette maison carcérale, ont été barricadées par les forces de l'ordre. Un avocat qui est venu assister son client et dont l'accès à la prison a été interdit indique que les autorités y font la perquisition pour dénicher les détenus suspects qui seraient en étroite collaboration avec les groupes armés. Déjà des dizaines de femmes qui sont venues rendre visite à leurs membres de famille s'en inquiètent. L'une d'elles, Karine Kapinga, exprime son désarroi.
J'arrive ici, je trouve un fort dispositif des militaires. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Cela me dérange beaucoup. Tout le temps, on attend des problèmes à la prison. Que pense le gouvernement? Que les autorités gèrent bien cette situation?
Entre-temps, plusieurs habitants ainsi que des agents de l'administration pénitentiaire s'inquiètent de la surpopulation carcérale au sein de cette prison qui compte à ces jours plus de 2000 détenus pour une capacité de 500 places. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nord Kivu, en bref, manifestation ce matin à Goma suite à la dépréciation du franc congolais sur le marché. La population réclame la baisse et la stabilisation du taux d'échange. À Goma, un dollar américain se change aujourd'hui à 2600 francs congolais. Si sur certains axes, la tension était perceptible, notamment au centre-ville, tout comme à Birere, centre commercial, les activités se déroulent normalement. Et puis, les violons ne s'accordent pas entre l'inspection générale des finances, IGF, et les gouverneurs de province du Kasaï-Oriental après la découverte il y a quelques mois de deux comptes fictifs ouverts par l'exécutif provincial. D'après une correspondance adressée au gouverneur de province datée du 18 juillet dernier, l'inspection générale des finances déplore les mauvais traitements infligés à la délégation de l'IGF en mission d'encadrement auprès de la province. L'autorité provinciale sollicite l'implication du président de la République dans cette affaire. Les explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis la découverte au mois de mai dernier de deux comptes non déclarés par le gouverneur de province que le torchon brûle toujours entre l'exécutif provincial et l'IGF. Pour preuve, dans une correspondance datée du 18 juillet dernier, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, déplore les mauvais traitements subis par les inspecteurs en mission d'encadrement auprès de la province. Selon Victor Batubenga, les inspecteurs ont été malmenés par les éléments de la police nationale congolaise commis à la garde du bâtiment du gouvernorat. Au vu de graves violations découvertes dans l'encadrement des dépenses et recettes, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, estime que cette démarche cache la volonté du gouverneur de se soustraire à l'encadrement des dépenses. Au cours d'un point de presse tenu ce week-end, le gouverneur de province parle d'un problème de qualité et de compétences. Patrick Mathias Kabea sollicite l'implication du chef de l'État.
Il y a un problème de qualité et de compétences et d'immixion ou de congestion. C'est moi qui ai appelé l'IGF. La province saisit le chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions dans ses dossiers avec l'IGF.
Signalons que les comptes non déclarés Solidarité Kasaï-Oriental et Agripel sont toujours bloqués sur ordre de l'IGF. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour hier dimanche à Kalemie de la gouverneure du Tanganyika, Jeline Ngongwa, plus de deux semaines après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle. À cette occasion, elle s'est adressée à la population à la place Kisebwe. L'autorité provinciale a appelé les fils et filles du Tanganyika à l'unité et à bannir les conflits qui retardent le développement de la province du Tanganyika. On écoute Jeline Ngongwa dans ses propos recueillis par Ponle Munanga.
L'heure des élections a sonné. Soyons soudés et cessons de créer des problèmes. Notre province est en train de reculer. Nous avons perdu 3 mois sans rien faire au moment où il y a ceux qui provoquent des problèmes et cela n'avance pas la province. J'ai besoin de vos soutiens pour le développement de notre province du Tanganyika. J'ai la foi et la conviction que vous m'aimez et vous allez m'accompagner. Le chef de l'État m'a dit de retourner dans la province pour continuer avec le travail ensemble avec les fils et les filles du Tanganyika. Ce n'est plus le moment de se tirailler encore. Mettons nos conflits de côté. Lorsque nous visitons d'autres provinces, nous constatons que ces provinces évoluent. On arrange des routes par exemple, mais ici chez nous, c'est seulement des conflits qui ne font que reculer la province du Tanganyika.
Actualité internationale.
Au Soudan, 9 personnes sont mortes hier dimanche dans le crash d'un avion à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du pays. Un enfant a survécu au crash de cet avion civil Antonov alors que 4 soldats sont morts. Selon l'armée, l'accident serait dû à des raisons techniques. Cet aéroport est le seul encore fonctionnel dans ce pays, ravagé depuis plus de 3 mois par une guerre civile qui oppose régulièrement les armées des généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo.
L'invité.
L'invité de ce journal est le professeur Justin Kialekoy de l'université de Kisangani dans la province de la Tchopo. Il parle de la conservation des ressources naturelles à l'épreuve des flux migratoires dans la province orientale démembrée, objet d'une conférence débat organisée samedi dernier par l'université Malikia à Kisangani. Le professeur Justin Kialekoy s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Justin Kialekoy, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
La conservation des ressources naturelles à l'épreuve des flux migratoires dans la province orientale de Mambré, tel est le thème de votre conférence. Quel est l'intérêt du thème que vous avez choisi?
En fait, l'intérêt du thème qui a été choisi, c'était juste une façon d'améliorer, n'est-ce pas, la compréhension des acteurs locaux, provinciaux, nationaux et internationaux sur le flux migratoire et leurs impacts sur les ressources naturelles.
Quels sont les facteurs à la base de ces mouvements des populations dans l'ex-province orientale?
Il s'agit entre autres des conflits armés qui sont en train d'endeuiller les populations au nord Kivu, en Ituri, et aussi en République centrafricaine et au Soudan du Sud, et avec les atrocités qui accompagnent cet activisme des groupes armés, les gens n'ont comme solution que de se déplacer. Mais à part l'activisme des groupes armés, il y a d'autres facteurs, notamment la disponibilité des ressources naturelles dans la zone, n'est-ce pas, d'étude, mais aussi les frontières au niveau de nos frontières qui sont poreuses et qui fait que donc il y a un flux, on connaît un flux migratoire important au niveau de la RDC en général, mais surtout dans la zone d'étude en particulier. Mais il y a également la disponibilité, par exemple, des terres à des prix abordables dans certaines provinces, comme la province de la Tchopo, et aussi la position géographique qui se retrouve, par exemple, au carrefour, n'est-ce pas, de plusieurs provinces, qui est la province de la Tchopo, par exemple, à d'autres provinces à travers les différentes voies de communication, et cela facilite les mouvements des populations vers cette province.
Et ces flux ont impact négatif, notamment sur les ressources naturelles.
Effectivement, les flux migratoires ont un impact ou des impacts en fait négatifs sur les ressources naturelles. Par exemple, la déforestation, la dégradation forestière. Il y a aussi la rareté de certaines ressources naturelles qui sont exploitées dans certains milieux. Mais au-delà de la rareté, vous avez tout ce qui est, par exemple, érosion du sol, mais aussi la pollution des eaux, ainsi que, n'est-ce pas, la destruction de certains pâturages, disons, des savanes par les migrants.
Paradoxalement, vous affirmez que ces flux migratoires n'ont pas que l'aspect négatif. Il y a aussi un aspect positif. Lequel ?
Évidemment, et parmi les impacts positifs, nous avons noté par exemple l'émergence en fait des grands centres commerciaux dans des endroits qui étaient jadis enclavés. Et à part ça, vous avez par exemple aussi une forte circulation monétaire, surtout dans des zones minières. Et au-delà de ça, les migrants sont aussi responsables en termes de création d'emplois. Et avec la présence, n'est-ce pas, de vaches de Mbororo, on a assisté à une diminution du prix de la viande de bébé sur le différent marché.
Et pour terminer, professeur, que faire pour assurer la conservation de nos ressources face à tous ces mouvements migratoires?
En fait, il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. Premièrement, il faudrait créer des registres au niveau de chaque entité territoriale décentralisée et pour faciliter le processus en fait d'enregistrement des migrants, qu'on puisse être en mesure d'identifier qui est arrivé, pour faire quoi et pour quelle durée. Mais au-delà de ça, par exemple, pour les migrants exploitants artisanaux de bois, il faudrait vraiment tout faire pour créer des unités forestières artisanales, parce que au moins avec les unités forestières artisanales, on va mettre fin à l'exploitation clandestine, parce que tous les exploitants vont se regrouper dans un même espace et l'administration qui est dépourvue parfois de moyens aura quand même le temps de contrôler ces migrants-là, exploitants, artisanaux de bois.
Professeur Justin, merci.
Et notre invité était le professeur Justin Kialekoï de l'Université de Kisangani. Il s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.